et agriculture biologique. Environnement, zéro déchet, développement durable. Vous souhaitez communiquer et partager vos actions, parler de vos projets sur l'antenne de Radio Alpementcel 106.3 FM.
Juste pour que ça dure.
Mon Bio Écomag vous informe sur différentes initiatives et expériences en faveur de l'environnement et du développement durable sur notre territoire.
Juste pour que ça dure.
Contactez le 02 43 33 24 56, le 02 43 33 15 15.
Juste pour que ça dure.
Écoutez Radio Alpementcel sur le 106.3 FM, votre radio associative en territoire Haute-Sarthe-Alpementcel. Consultez son site internet et rejoignez-nous sur la page Facebook de Radio Alpementcel.
Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, au sommaire de votre bio-écomag, les brèves de la semaine, suivies de la chanson « Les cailloux au feu et les maîtres au milieu » de Robert Miville, puis de votre chronique spéciale « Vacances » dans lequel nous parlerons des cahiers de vacances. Mais d'où viennent-ils ces cahiers de vacances? Si vous ne le savez pas, restez, je vous dis tout. Puis d'un extrait de Benabar avec le titre « Le vélo ». Ce sera ensuite l'heure de votre chronique santé-alimentation avec comme sujet du jour les bienfaits du deux roues, suivi d'un extrait de La Mouche de Michel Polnareff, puis de votre chronique biodiversité justement sur les mouches. Et oui, les chaleurs sont là et avec elles les mouches. Mais pourquoi nous enquiquinent-elles? Y a-t-il des solutions écologiques pour en venir à bout? Pour le savoir, écoutez votre magazine jusqu'au bout. S'en suivra la chanson des Cowboys Fringants avec le titre Les étoiles filantes. Puis notre interview avec Jean-Luc Godimus, maire de Perret, qui viendra nous parler des buts de Perret. Ce sera alors la fin de votre magazine et le moment de se dire au revoir. L'électricité ne devrait pas manquer cet hiver. Les prévisions de sécurité d'approvisionnement en électricité cet automne et cet hiver sont meilleures que l'an dernier, quand la France avait dû affronter les menaces de pénurie de courant. Selon le gestionnaire du réseau RTE, les stocks hydrauliques, des barrages et de gaz sont à des niveaux très satisfaisants. Les énergies renouvelables se développent, le nucléaire est plus haut et la consommation d'électricité est toujours en baisse. Toujours plus de CO2, les émissions de gaz à effet de serre émanant du secteur de l'énergie ont atteint de nouveaux records l'an dernier. Et ce secteur va dans la direction opposée aux engagements de l'accord de Paris sur le climat, avertit une étude d'Energy Institute. La consommation mondiale d'énergie primaire a augmenté d'environ 1% en 2012, ce qui représente une hausse de près de 3% comparée au niveau pré-Covid de 2019. Action judiciaire contre Total Energy. 26 Ougandais et 5 associations françaises et ougandaises ont lancé une nouvelle action en justice en France pour demander réparation au gérant français Total Energy pour les préjudices causés selon eux par son méga-projet pétrolier controversé en Ouganda. L'action vise le projet de forage pétrolier Tilanga et le projet d'oléoduc EACOP. Trop d'emballages surdimensionnés. Bonbons, carrés de chocolat, noisettes, lardons et raviolis. Les associations Foodwatch et Zero Waste France ont mis en demeure 5 grandes marques pour qu'elles changent le conditionnement de produits qu'elles commercialisent, jugés surdimensionnés par rapport au contenu. Nous donnons 30 jours à Carambar, Carte d'Or, Dacobello, Erta et Rana pour qu'ils retirent leurs produits du marché et s'engagent à ne plus commercialiser de produits pleins de vide, affirment les associations.
Range tes plumes et oublie tes crayons. Aujourd'hui, c'est les vacances. Oublie tes devoirs et oublie tes leçons. C'est la belle vie qui recommence. Cache tes livres aussi loin que tu peux. Aujourd'hui, c'est les vacances. Change tes notes et ma foi si tu veux. C'est la belle vie qui recommence. Elle a sonné l'heure de la chose, l'heure toute de ciel, l'heure toute de bleu.
C'est la journée de ta revanche. Les cahiers au feu et les maîtres au milieu. Adieu zéro et adieu punition. Aujourd'hui, c'est les vacances. Adieu grammaire et adieu addition. C'est la belle vie qui recommence. Recommence. Pas mon petit vieux, t'as le droit d'être heureux. Les cahiers au feu et les maîtres au milieu. Les cahiers au feu et les maîtres au milieu.
Dans votre chronique spéciale vacances scolaires, mais d'où vient le cahier de vacances? Vendu chaque année à quelques millions d'exemplaires, les cahiers de vacances ont été inventés il y a plus de 90 ans par Roger Magnard, représentant en papeterie, après une baisse de son chiffre d'affaires pendant les vacances estivales. Roger Magnard, originaire du Dauphiné, reprend au décès de son oncle commercial ses tournées dans tout le quart sud-est de la France, dont la Creuse. Là, il rencontre sa femme Suzanne, qui tient une librairie et l'aide ainsi à la tenir tout en continuant son activité en parallèle. Rapidement, il montre une certaine ambition quand il commence à perdre de l'argent, après la crise de 1929 qui a bouleversé tous les marchés, dont celui de la papeterie. Il a alors l'idée de poursuivre ses ventes pendant l'été, tout en permettant aux enfants de jouer pendant les vacances, et rapidement, il s'entoure de professeurs pour avoir des exercices comme des charades, rébus et comptines. Leurs enfants donneront ainsi au premier cahier de vacances leurs surnoms, Loulou et Babette. Le rayonnement local des cahiers Maillard s'est rapidement étendu à tout l'Hexagone à la faveur d'une communication très efficace. À l'époque, il fallait intéresser le grand public. Pour cela, des prix étaient mis en jeu, et parmi eux, des voitures, dont une Simca à ronde. Décédé en 1973, Roger Magnard a laissé derrière lui une famille bien ancrée dans l'univers du livre. Sa petite fille Isabelle était, jusqu'à sa retraite, directrice d'édition chez Magnard, rachetée en 1995 par Albert Michel. Pour information, en 2021, c'est près de 4,5 millions de cahiers de vacances qui ont été vendus, d'après le syndicat national de l'édition. Et vous, êtes-vous ou avez été des adeptes de ces célèbres cahiers?
Serment des parents, c'est vilain de faire des colères. Et faut être patient et avoir un bon caractère. Mais s'énerver, c'est légitime, faut se faire respecter des machines. Avec mon scooter, je connais les mêmes déboires. Quand il démarre pas, je lui donne des coups de casse dans les phares. Alors ce gosse, faut pas le gronder, c'est le vélo qui a commencé. Il s'élance dans la descente, maintient le cap avec adresse. Il dévale la pente, tangue et se redresse. Et prend de la vitesse, les jambes à l'horizontale. Le guidon tremble, il vibre. Il sautille sur la selle, mais garde l'équilibre. Il veut faire coucou de la main et se vautre un peu plus loin. Il arrache le garde-boue et les poignées en caoutchouc, la dynamo d'un coup de talon, puis piétine les rayons. Et il crève les pneus, il commence à se sentir mieux. Il fait rien qu'à l'énerver, ce vélo qui fait que tomber. C'est quand même très énervant, ces vélos qui tombent tout le temps. Un coup de pied dans le porte-bagage, la sonnette, bah il dégage. Mais faut pas faire de colère, alors écoute-moi bien. Plutôt que d'essayer d'arracher les caps des freins, fais levier avec un bâton pour pas te baiser les mains.
Dans votre chronique santé-alimentation, le Tour de France ayant débuté le 1er juillet, c'est l'occasion de faire le tour des bienfaits du deux roues. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, les principaux facteurs de risque de maladies cardiaques sont le manque d'exercice, le surpoids, le tabagisme et le diabète. Sans forcément aligner les kilomètres comme les coureurs du Tour de France, pratiquer régulièrement le vélo permet de renforcer le système cardiovasculaire. Il aide aussi à brûler les calories, presque, sans s'en rendre compte. Le cyclisme fait aussi travailler vos quadriceps, vos ischio-jambiers, vos mollets et vos hanches. Il améliore la force, l'équilibre et la coordination. Idéal donc pour prévenir des risques de chute et de fractures. Le vélo est aussi bon pour la tête. Les problèmes de santé mentale, tels que la dépression, le stress et l'anxiété, peuvent être réduits en pratiquant régulièrement le vélo. Cela est dû notamment aux effets de l'exercice lui-même et au plaisir que peuvent apporter les balades en extérieur. Le vélo peut enfin être un excellent moyen d'atteindre les 2h30 d'activité recommandées par semaine. Aller au travail certains jours, faire quelques trajets courts pendant la semaine ou un trajet plus long le week-end vous aidera à y parvenir et ainsi à améliorer nombreux points de votre santé qui se voient de plus en plus mis à mal par la surconsommation de produits transformés, les pollutions diverses et votre sédentarité. Outre une amélioration sur tous ces points, pensez à l'impact écologique et économique qu'a l'utilisation de votre voiture, notamment et surtout sur vos petits trajets. Allez, à vos marques, prêts, pédalez et profitez-en pour faire le plein de vitamine D, seul, à deux, entre amis ou en famille.
Je suis cette mouche, posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était jolie. Je suis une mouche, posée là sur sa bouche. Je n'avais Dieu que pour elle, mais elle voulait que je me tire à tire d'elle sur ses lèvres. Moi, j'avais décidé de ne plus jamais m'envoler. Sur ses lèvres, moi, j'avais décidé de ne plus jamais m'en aller. Mais que fait donc cette mouche posée là sur ma bouche? Demanda-t-elle au peintre qui lui dit comme sont jolies. Devant cette mouche dessinée sur ta bouche, moi j'aurais tout donné, oui tout donné, pour pouvoir l'embrasser. Sur ses lèvres, moi j'avais déposé le plus doux des plus doux baisers. Sur ses lèvres, moi d'une gifle elle m'a tué, croyant que je voulais la piquer. J'étais une mouche, posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était jolie.
Dans votre chronique biodiversité, elles ont le chic de débouler dans la cuisine, frôler notre oreille et revenir nous enquiquiner quelques secondes plus tard. Les mouches arrivent en nombre en cette période de l'année et comptent bien s'installer dans les habitats, sur les carreaux, les rideaux, les plans de travail, quitte à être plusieurs et laisser quelques crottes au passage. Présentes toute l'année, le printemps est toutefois la période à laquelle elles sont hyperactives et se reproduisent. On pense à tort qu'il n'existe qu'une sorte de mouche, mais en réalité, elles sont plusieurs milliers d'espèces. Selon les spécimens, les cycles de vie peuvent durer entre quelques heures et quelques semaines, un rythme soutenu donc. Mais pourquoi viennent-elles dans nos maisons? Les mouches vont pondre à plusieurs endroits qu'elles affectionnent. Cela peut être dans les mares, comme sur les cadavres ou encore dans les excréments. Les mouches peuvent donc s'installer dans les maisons. Par exemple, dans un cadavre de rongeur resté bloqué entre une plaque de placo, autour des litières, de restes de nourriture ou encore auprès de fruits mûrs. Notre peau peut aussi les substanter. En effet, certaines posent leurs fines pattes sur nous quelques secondes et puis repartent. Mais pourquoi? D'après Mathieu de Flores, entomologiste et chargé de mission à l'OPI, il n'y a pas d'explication scientifique, mais il l'interprète comme cela. Nous émettons des odeurs et des sels minéraux sont présents dans notre sueur. Elles vont laper et goûter notre peau. Si ça ne leur plaît pas, ou si elles ont peur, elles s'enfuient. Si elles y reviennent, c'est probablement parce que cela leur a plu. Et si elles rentrent dans nos habitations, ce n'est pas uniquement pour déposer leur progéniture ou pour se nourrir. Leur présence est aussi une question de hasard et d'opportunisme. Les insectes, dont les mouches, sont très nombreux à passer devant nos fenêtres. Quand il fait bon, on les ouvre. Et inévitablement, certains vont rester et vont être piégés de manière accidentelle, explique l'entomologiste. Parfois, elles viennent aussi s'y réfugier grâce à la chaleur de nos intérieurs qu'elles arrivent à détecter. Mais alors, comment les faire partir, me direz-vous? Ben malheureusement, il n'existe pas 36 solutions, ni de remède miracle. Les astuces de grand-mère n'ont jamais vraiment fait leur preuve. Une astuce quand même. Le soir, pour les faire partir, il faut ouvrir grand les fenêtres pour les laisser s'échapper. Pourtant, l'opération n'est pas toujours évidente. En effet, bien que nous leur avons déjà tous ouvert la porte vers la liberté, elles se butent bruyamment sur la fenêtre d'à côté qui, elle, était restée close. Elles ne connaissent pas la notion de fenêtre, explique Mathieu de Flores. Ils sont donc attirés vers la lumière venant de l'extérieur, mais ils ne peuvent pas faire la différence entre une fenêtre ouverte et une fenêtre fermée. Restent alors les solutions plus corsées pour en venir à bout, comme les aérosols anti-nuisibles. Mais ces nuées sont bien souvent toxiques à la fois pour les insectes et pour les humains. On s'empoisonne pour quelque chose qui n'en vaut vraiment pas le coup. Aussi, les mouches vont contaminer d'autres insectes si elles retournent à l'extérieur. Ce qui reste le plus efficace aux yeux du chargé de mission, ce sont les rubans attrape-mouches. La colle va retenir la mouche qui meurt par épuisement. Une méthode sans pitié qui n'est pas forcément du goût de tout le monde. Néanmoins, cela est parfois nécessaire et notamment dans les exploitations agricoles, car certaines vont venir piquer le bétail. D'autres pondent aussi dans les naseaux des bêtes. D'autres encore s'agglutinent dans leurs yeux. Une problématique que l'on ne rencontre pas nécessairement en milieu urbain, mais qui peut vite devenir pénible en campagne. Si elles sont envahissantes à bien des égards, les mouches sont absolument essentielles au bon fonctionnement des écosystèmes puisqu'elles sont à la base de la chaîne alimentaire. Elles vont se faire manger par les araignées ou encore par les oiseaux. Certaines sont prédatrices, c'est-à-dire qu'elles vont manger d'autres animaux. Par exemple, le cifre cintré est aimé des jardiniers car il dévore les pucerons. Les mouches sont aussi des décompositeurs ou des recycleurs puisqu'elles se délectent des crottes et des cadavres. Par ailleurs, beaucoup vont même participer à la pollinisation en allant butiner les fleurs. En d'autres termes, on peut dire qu'elles font le sale boulot et permettent à toutes ces choses pas franchement ragoûtantes de disparaître.
Je m'arrête un instant pour te parler de ma vie. Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Je m'arrête un instant pour te parler de la vie. Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit. Et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, d'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus le goût de m'en faire. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passe. Des chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent. Dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester, avec moi la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Les étoiles filantes.
Cela faisait plusieurs mois que la municipalité de Peuret attendait un retour positif de la part de la commission en charge du classement. Ça y est, c'est chose faite. Pour nous en parler, nous recevons dans les studios de Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM Jean-Luc Godimus, son maire. Monsieur Godimus, bonjour.
Bonjour.
Alors, maire de la commune de Peuret, je vous invite à nous parler de celle-ci. Tout d'abord, peut-être en la resituant géographiquement.
Alors, géographiquement, la commune de Peuret se situe dans le Maine, Maine-Saunois, donc complètement à l'est du département. Elle limite Mamers, Bonnétable et Marolles-les-Braux. On est juste au milieu de ces trois communes.
Une commune qui compte actuellement combien d'habitants ?
72 habitants.
72 habitants. Un petit peu plus, j'ai vu que le dernier recensement c'était en 2021, il y avait une soixantaine d'habitants, donc vous avez augmenté votre nombre.
Tout à fait, par l'arrivée de beaucoup de jeunes qui ont acheté sur notre commune, et donc des enfants, donc beaucoup d'enfants.
Et comment les appelle-t-on, ces habitants ?
Les Peuréens et les Peuréennes.
Et y a-t-il encore des biens à acquérir ou peut-être des terrains constructibles ?
Alors, aucun terrain constructible, puisque le village est complètement classé par le bas grâce à son église, donc 500 mètres autour, et maintenant par la butte, 500 mètres autour, donc ça veut dire que tout le village est protégé.
Donc cette commune est répartie sur une surface de combien de mètres carrés ?
Elle fait 2 km à peu près sur 1 km.
D'accord, donc petite commune.
Petite commune.
Une commune connue pour sa butte, qui vient il y a quelques semaines d'être reconnue dans son intégralité comme site protégé. Alors parlez-nous un petit peu de celle-ci.
Alors déjà, pour commencer, la commune depuis 3 ans a racheté tous les terrains qui constituent le site historique. Donc vous avez la butte principale, vous avez la basse-cour, vous avez les remparts et vous avez les douves. Donc ça date du XIe siècle, c'était la limite du Maine et de la Normandie. Donc c'était construit par le duc de Bellême, Robert le Diable, et c'était pour protéger le territoire. Donc voilà, c'est une butte extraordinaire. Les bâtiments de France l'ont reconnu comme un site merveilleux, puisqu'il est complètement dans son jus, mais on a encore tout, la butte, la basse-cour, les remparts et les douves.
Donc une butte conséquente sur bien des points et qui fait partie des plus importantes du territoire.
C'est une des plus importantes et surtout la plus complète. C'est-à-dire qu'on peut la regarder, on voit vraiment ce que c'était qu'un castrum Peretti, vraiment une butte dans sa splendeur.
Quand vous nous dites qu'elle est complète, c'est-à-dire qu'elle se divise en trois parties en
voilà, on sait réellement, bon, malheureusement on a une route qui la traverse, une petite départementale, mais à gauche ou à droite, quand on rentre dans le site, on voit vraiment le site comme était à l'époque, vraiment à l'époque dans le XIe siècle. C'est-à-dire que vous pouvez voir la butte principale y monter, mais vous pouvez aussi voir ce que c'était qu'une basse-cour. Donc la basse-cour, c'est là où se protégeaient les gens en cas d'attaque, les remparts, mais aussi les douves. Et aujourd'hui, il y a très très peu de sites aussi complets, et surtout sur la Sarthe.
Donc aujourd'hui, les buttes offrent un magnifique panorama sur la campagne alentour. En éco-pâturage, expliquez-nous un petit peu.
Alors ça a été la volonté de la commune dès le début, de dire bon, on va reprendre, on va racheter le site pour le protéger, mais on voulait surtout que ça soit un lieu de vie pour les habitants et les habitants des alentours, mais aussi étant très proche de l'écologie, mais une écologie propre. Donc on a mis de l'éco-pâturage sur tout le site. Donc sur la butte principale, vous avez des moutons d'Ouessant qui entretiennent depuis maintenant 3 ans la butte. Et vous avez de l'autre côté des chèvres de fossé, Parce que comme le site avait été abandonné depuis des années, il y a beaucoup plus de travail, donc les chèvres mangent mieux que les moutons, tout ce qui est orties, ronces et compagnie.
Et cette race en particulier?
Et cette race en particulier.
Vous avez d'ailleurs décidé également d'y installer une table d'orientation.
Alors, en haut de la butte principale, il y a deux tables d'orientation, parce que c'est très, très, très large en haut sur la butte. Donc, il y a un côté où on voit à 180 degrés la direction d'Alençon, et de l'autre côté, la direction de Bonnétable. Donc, sur une table, vous voyez entre Marolles et Mamers, à peu près, pour les gens qui connaissent un peu, et de l'autre côté, entre Mamers et Ballon. Donc, on voit vraiment à plusieurs kilomètres, je ne pourrais pas vous dire le nombre de kilomètres, mais à plusieurs kilomètres, on voit vraiment, vraiment les alentours. Alors, en hiver, un peu mieux, parce qu'il y a moins de feuilles sur les arbres, mais on voit vraiment très, très loin.
Et c'est une butte qui est accessible par quel accès?
Alors, la butte principale est accessible par des escaliers. On appelle ça des escaliers, mais bon, c'est pas. Bon, les gens peuvent monter, il y a une corde pour les aider à monter. Mais une fois qu'on est là-haut, on a oublié le petit effort qu'on a fait pour monter en haut de la butte.
Une vue qui vaut le coup de ce petit effort.
Les gens reviennent beaucoup. Une fois qu'on a connu les buttes de Perret, on y vient assez souvent, et surtout avec les enfants. Parce que les enfants, ben, il y a des tables de pique-nique hein, en bas. Et les enfants adorent aller jouer avec les moutons, aller jouer avec les chèvres, et puis d'autres animaux qui vont venir prochainement.
Des projets. On peut en dire un petit peu plus?
Un petit peu plus, on est en train de voir et on est en train de réfléchir pour contacter la SPA pour mettre des vieux ânes, des animaux enfin qui ont besoin d'être ramenés dans un beau pâturage.
Pour entretenir le site, mais également pour apporter de la diversité.
Tout à fait, pour apporter surtout de la diversité, et pour que ce site ne soit pas qu'un site, on dit voilà, c'est le site. Non, il faut que ça soit un lieu de vie pour les habitants de Perret et les alentours, bien sûr.
Tout à l'heure, vous nous parliez des aspects historiques, en tout cas de cette butte. Pourquoi avoir souhaité faire placer ce site?
Quand on a la chance d'être maire d'une petite commune et d'avoir un site aussi merveilleux, je crois qu'il était de mon devoir. Depuis mon premier mandat, je voulais absolument classer cette butte. Cette butte a été déjà pillée par la terre, prendre de la terre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que quand on a la chance d'une toute petite commune d'avoir un site aussi merveilleux, il fallait absolument le classer. Et en même temps d'être classé et protégé bientôt, c'est d'avoir des aides de l'État et du département pour l'entretien, pour tout ça. Quand on est 70 habitants, enfin 72 et bientôt 73 dans quelques jours, je pense que... Mais vraiment très, très important qu'on garde notre histoire, vraiment garder son histoire. Donc, l'église étant classée, etc., et le mobilier de l'église et les statues de l'église, il ne nous restait plus qu'à faire de ce site le pendant de l'église.
Donc, un petit village, mais déjà deux lieux classés.
Deux lieux classés,
qui apportent une certaine, peut-être, notoriété.
Nous avons des cars qui viennent maintenant du Mans, de Sablé, le dernier, d'associations qui viennent pour visiter l'église. Mais maintenant, surtout depuis le classement et les articles dans la presse, la butte. Alors, c'est très bien. Nous n'avons pas de commerce, donc je ne fais pas de pub pour les commerces. Nous n'avons rien. Nous avons juste l'envie d'accueillir les gens pour montrer notre village.
C'est déjà une belle envie.
C'est une belle envie.
Un site qui va également subir des travaux de fouilles archéologiques et de recherches sous peu. Qu'espérez-vous y trouver?
Si je savais. Non, je pense qu'il y a eu des grosses batailles tout autour. On a déjà retrouvé, il y a quelques années, un habitant de Perret s'est amusé à faire des fouilles. On a retrouvé des pièces de monnaie, des morceaux de poterie, etc. Donc, je pense que des vraies fouilles faites par des archéologues pourraient peut-être apporter une réponse à cette histoire. Pourquoi Perret? Qu'est-ce que c'est que cette butte réellement de Perret? Vous en avez eu un Saint-Rémy-du-Val, vous en avez d'autres ailleurs. Mais Perret, c'est tout petit. Donc pourquoi? Alors, on a déjà des réponses. Nous sommes un village entouré par deux rivières. D'un côté, vous avez l'Orne Saunoise et de l'autre côté, vous avez la Dive. Donc je pense que c'était un lieu stratégique. Mais on pense. Et peut-être qu'avec les archéologues, avec les historiens, on en saura un peu plus sur la butte de Perret.
Donc, cette envie, en tout cas, de faire connaître le village, de faire connaître le site et puis connaître un peu plus historiquement parlant.
Tout à fait. Et je pense qu'il y a un truc qui est, pour moi, important, c'est s'il y avait des fouilles, de récupérer tout ce qu'on peut récupérer. On rêve d'une épée, d'un bouclier. Enfin bon, c'est des rêves, hein, on ne sait pas ce qu'on en trouvera. Mais de mettre ça dans notre mairie pour rappeler l'histoire de notre commune.
Vous, de votre côté, en dehors de votre village, hein, qui donne envie, quand on vous écoute, on voit que vous aimez votre village.
Ah, hein. J'adore mon village.
Est-ce que vous avez d'autres visites des alentours que vous nous conseillez?
Je pense à la forêt de Persaigne, avec son belvédère. Vous avez aussi Bonnétable, qui était une petite ville très agréable, avec son jardin potager, qui appartient maintenant à la communauté de communes. Vous avez les Halles de René. Bon, je pense que c'est pas tout le monde connaît, mais vous avez aussi plein de petits châteaux tout autour, Courcival, même si c'est du privé, Saint-Aignan, Courcival, c'est très beau à voir. Ou Novet, la plus petite commune de la Sarthe, qui touche Perret, la troisième petite commune de la Sarthe. Donc non, il y a beaucoup de choses à faire, mais surtout des belles promenades, vraiment de très très belles promenades. Nous avons la chance d'être encore avec beaucoup de bocages, beaucoup de petits villages typiques sartois qui traversent le temps en gardant vraiment vraiment son authenticité.
Bah avant de nous quitter, je vais vous inviter à nous donner les contacts de la mairie pour toutes les démarches ou questions relatives à la commune, mais également pour le nouveau site.
Alors, la mairie est ouverte seulement le lundi et le mercredi matin. Elle se situe en plein milieu du bourg, donc 70 habitants, vous imaginez que le bourg n'est pas très grand. Elle vient d'être agrandie, donc ça aussi en plus. Donc, son numéro de téléphone, c'est le 02 43 33 61 64. Vous pouvez aussi nous joindre par mail. Voilà, l'adresse suivante, c'est communedeperret@ozone.net. Si vous voulez visiter l'église, il suffit de nous contacter. Nous ouvrons l'église. Par contre, le site historique de la butte, c'est ouvert à tout le monde quand ils veulent, puisqu'il n'y a pas... voilà. Par contre, s'ils veulent une visite guidée, ils contactent la mairie. Et la mairie met quelqu'un à disposition pour expliquer l'histoire de la butte de Perret à ce jour.
Et concernant du coup l'église, c'est sur réservation, c'est ça?
Voilà, il suffit de nous... Alors, on l'ouvre le samedi ou le dimanche sur demande. Parce que nous avons des choses extraordinaires dans notre église et donc on la protège beaucoup.
Bah justement, qu'est-ce que vous avez d'extraordinaire dans votre église?
Alors nous avons une statue de la Vierge du XIIIe siècle qui est actuellement en restauration. On a retrouvé les pigments de l'époque, donc elle est partie pour faire un grand nettoyage. Nous avons une voûte extraordinaire où nous avons le chemin de croix par les objets qui ont été utilisés pendant la crucifixion. Donc nous n'avons pas un chemin de croix autour, mais au plafond. Nous avons deux retables classés du XVIe siècle, et puis plein d'autres choses.
Donc une église qui est restée d'époque?
Elle est d'époque, elle est du XIIe siècle, donc à peu près à la même époque de la butte, hein, et elle a été restaurée au XVIe siècle, agrandie et modifiée.
Avant de terminer, est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose?
Alors, tout à fait. Si vous voulez voir ce site merveilleux qu'est les buttes de Perret, qui s'appelle exactement le Castrum Pieretti, vous pouvez aller sur YouTube. Pour le classement, nous avons fait faire une vidéo par un drone qui montre la totalité du site, du village et de l'église, mais surtout du site pendant 10 minutes. Il suffit d'aller sur YouTube et taper les buttes de Perret. Et vous avez une vidéo merveilleuse à voir avec une musique médiévale.
Monsieur Godimu, je vous remercie d'avoir pris la peine de vous déplacer directement dans nos studios.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli.
C'était avec plaisir et puis peut-être à très bientôt.
À très vite, merci.
Et voilà, nous arrivons à la fin de votre Bioécomag, votre magazine d'information sur les différentes initiatives et expériences en faveur de l'environnement et du développement durable sur notre territoire. Retrouvez-nous sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet ou contactez-nous au 02 43 33 15 15. 02 43 33 15 15. Et bien sûr, continuez d'écouter Radio Alpes-Mancelles au 106.3 FM, votre radio associative en territoire Haute-Sarthe-Alpes-Mancelles. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt dans votre Bioécomag.